On l'a vu. Donc, je veux que ça soit F bar des entrées bar. Donc, si j'ai une fonction, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, A et B, hein, qui est représenté par deux transistors comme ça, A, B, eh bien, je vais avoir ici ça. Hein. J'applique une première fois à ce qu'était, alors ça, si vous voulez, au départ, j'avais fait A et B pour le réseau N. Hein. Et donc, devenu dual, donc ça, c'est là, en fait, la duale. Donc, A et B dual, ça me donne ça. Hein. Et donc, en appliquant une première fois de Morgan, ça va me donner A ou B bar. Le deuxième bar, il s'annule et ça fait A ou B. Donc, la duale de A et B, eh ben, c'est le passage du et au ou. Vous feriez la même chose avec le ou au lieu du et au départ, vous obtiendriez l'autre. Hein. Donc, il suffit de transformer. Or, ça, c'est le réseau parallèle. Hein. Donc, A, B. D'accord? Donc, si c'est un réseau P, voilà, et voilà. Donc, on va fabriquer le dual par transformation série parallèle, tout simplement. Hein. Et donc voilà l'inverseur. D'abord, l'inverseur, c'est un système du même genre, système qui n'a qu'un transistor dans le réseau N et un transistor dans le réseau P. Les deux entrées sont connectées ensemble. Hein. Quand, si je mets 0 à l'entrée, ce transistor est bloqué, puisqu'il a 0 sur sa grille, donc c'est en dessous de son seuil, mais il a toute l'alimentation sur la grille, puisque la source de ce MOS est ici, et donc ce MOS-là est saturé. Donc la sortie est portée à 1, alors que l'entrée était à 0, la sortie est portée à 1. Si maintenant l'entrée est à 1, ce transistor conduit, puisqu'il a l'allume sur l'entrée, et ce transistor est bloqué, puisqu'il est à VDD, donc lui son seuil c'est par rapport à VDD, et donc il est bloqué, donc la sortie est amenée à 0 par ici. Donc la sortie est 0 si l'entrée est 1. Voilà, donc fonctionnement archiclassique de l'inverseur. Maintenant, vous voyez, si je veux faire une porte non et, eh bien, je veux obtenir un non et ici, donc je fais un réseau et ici, et par la dualité, j'ai un réseau parallèle là. Okay? La fonction de sortie est toujours complémentée ici. Et donc, on prend la fonction décomplémentée pour faire le réseau N et la fonction, sa duale par dualisation série parallèle ici. Voilà. Là, comment on fait ces portes classiques? Alors, il y a toute une procédure pour dimensionner les transistors là-dedans, mais là, bon. Vous voyez, porte un peu plus compliquée, hein, j'ai un et de ou. Hein, et donc, un et de ou, j'ai le E3 qui est en série avec E1, E2 en parallèle. Hein. Alors maintenant, je fais, ça c'est pour le réseau N, hein, et le réseau P, bah, puisque celui-là est en série, dit en parallèle, ces deux-là sont en parallèle, on les met en série. Bah, hein, donc c'est très facile à faire. Hein. Et donc, une des propriétés du CMOS, c'est de pouvoir faire des fonctions complexes. Avant, les transistors bipolaires ne pouvaient pas permettre de faire des trucs de ce genre. Et on arrive à faire des fonctions très complexes comme ça, avec des CMOS. Donc ça réduit la complexité de la circuiterie. En général, ces portes dites complexes sont un peu plus lentes. Mais bon, on ne sent pas. Alors on peut aller plus loin, dire jusqu'à maintenant, les réseaux, ce que je vous ai montré, dans les portes dites standards, classiques plutôt, ont véhiculé l'alimentation ou la masse. Mais on peut aussi véhiculer des signaux. Et donc, on va fabriquer, comme on faisait avec les relais, une sortie à partir des résultats de plusieurs réseaux de conduction qui ne doivent évidemment pas être conflictuels. Ils doivent soit donner la même valeur, soit être non conducteurs. Donc, il y en a soit un seul qui est conducteur, soit s'il y en a deux qui sont conducteurs, il faut qu'ils soient d'accord. Et donc, on va faire des portes de ce genre, hein, et on évite aussi d'avoir des valeurs dégradées en combinant bien les réseaux pour avoir des bonnes sorties. Hein. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait. Supposons que je vais y faire une porte E. Et alors, ces techniques-là, c'est très intéressant parce que ça gagne énormément de transistors. Je vais faire une porte E. Voilà, j'écris la table de vérité du E. Hein? Donc ça, c'est archi classique. Et je me rends compte d'une chose. C'est que ces deux lignes-là, lorsque B vaut 1, eh bien, ne font que reporter la valeur de A en sortie. Hein? Vous voyez, si B vaut 1, A vaut 0, je retrouve 0. A vaut 1, je retrouve 1. Et B, quand B vaut 0, la sortie est toujours 0. C'est-à-dire, c'est une façon d'écrire de manière dissymétrique le E, qui est souvent utile pour faire des choses. Eh bien, comment on va faire? Je veux reporter l'entrée en sortie. Eh bien, je mets un switch CMOS. Donc, A, un switch CMOS directement sur S. Alors, attention, un switch CMOS qui va me transmettre à la fois le 0 et le 1, doit avoir deux transistors, donc il est excité par B et B bar. J'ai besoin de B bar. Hein. Et pour le 0, eh bien, je vais mettre un MOS N en sortie, donc un réseau N, qui va me connecter la sortie directement à 0 pour ces deux lignes, et qui sont mutuellement exclusives. Hein. Et lui, dans ces deux cas, c'est-à-dire lorsque B vaut 0, il me forcera 0 en sortie, c'est-à-dire je prends un transistor qui est excité par B bar, donc qui vaut 1 quand B vaut 0, et qui va donc me rendre mon MOS N conducteur. Et que vous voyez que pour faire un E, j'ai besoin de 1, 2, 3, 3 transistors. Si vous faites un E avec des portes classiques, il vous faudra faire un non-E et un inverseur derrière. Le non-E, c'est 4 transistors. L'inverseur derrière, c'est 2 transistors. Ça en fait 6. Vous avez fait un gain de 50%. Alors, avec des inconvénients. C'est-à-dire que vous voyez que ce n'est pas régénératif. Je laisse passer le A. Il faut bien que quelqu'un donne l'énergie. Donc, je vais pomper en amont ça. Hein. J'ai besoin de B bar. Bon. Mais très souvent, on a les valeurs et leurs compléments. Vous voyez, le genre, alors on fait pareil avec le OU, hein. On peut même faire pareil avec le OU exclusif, là c'est un peu plus compliqué, et c'est très utilisé dans ce genre de choses. Donc on utilise ces espèces de portes qui ont l'avantage d'avoir très peu de transistors. Vous voyez, je fais un OU exclusif avec, là c'est pour faire des OU exclusifs, avec 1, 2, 3, 4 transistors pour faire un OU exclusif ou un non OU exclusif. Hein. À condition d'avoir A, B, B bar. Hein? Ok? C'est quand même pas mal. Hein? Et donc, ça, c'est très utilisé, par exemple, pour faire les tâches de sortie d'un additionneur. Hein? Le deuxième ou exclusif de l'additionneur est fait comme ça. C'est un peu lent. Ça ne régénère pas dans ce cas-là. Mais c'est quand même assez, assez fantastique. Hein? Donc ça, c'est des montages typiquement qu'on peut faire typiquement avec du CMOS, avec des MOS. On ne peut pas faire sans bipolaire. Peut-être avec des relais, on y arriverait. Mais les relais ne tournent pas à la picoseconde. Hein? Voilà, alors on va parler aussi des portes 3 états, puisque finalement les réseaux de connexion ont un état isolé, ils transmettent une valeur. Mais ils sont isolés, donc en fait, c'est le domaine de leur sortie, leur valeur de sortie, c'est ce que je mets à l'entrée, ou isolé. Donc, je peux utiliser, transmettre cet isolé, c'est-à-dire faire qu'il n'y a rien qui pilote la sortie, et s'il n'y a rien qui pilote la sortie, ça me fait une sortie déconnectée. Et cette sortie déconnectée est bien, parce que ça va me permettre de faire ce qu'on appelle des bus, c'est-à-dire de relier des organes indépendants en les connectant. Je connecte celui dont j'ai besoin. Hein? Donc je peux même ne pas savoir combien il y en a, ce n'est plus un raisonnement global, mais chacun se branche quand il a besoin de se brancher. Et je verrai également que je peux faire des structures dynamiques. On n'en fait plus, mais les structures dynamiques, c'est très intéressant. C'est qu'on répartit la fonction sur plusieurs temps. Hein, et on travaille dans le temps au lieu de travailler dans la complexité. Alors, voilà comment, par exemple, on fait un inverseur 3 états. Alors, la solution triviale, c'est je prends un inverseur, je lui mets une porte 3 états derrière. Pourquoi pas? Ça marche. Mais je peux aussi faire une porte 3 états. Par exemple, un inverseur 3 états. Je rajoute deux transistors ici, et vous voyez qu'ils sont alimentés par la fonction de conduction, mais conduit et conduit barre. C'est-à-dire qu'ils doivent marcher tous les deux ensemble, et non pas l'un ou l'autre. Hein. Donc c'est pas un inverseur, ça. C'est C barre, c'est-à-dire que quand C sera à 1, C barre sera à 0, donc les deux transistors sont conducteurs, donc la porte sort sa valeur, et quand il y aura 0 ici et 1 ici, à ce moment-là, les deux transistors sont bloqués et la sortie sera flottante. Hein? Donc, on fait une logique à trois valeurs, hein? À 0, 1, isolé, voilà. Qui est très intéressant et qui gagne énormément de transistors parce que si vous vouliez faire ça avec de la logique, il faudrait des multiplexeurs, des portes, un tas de trucs. C'est très compliqué. Beaucoup plus de transistors. Donc, tout ça permet de gagner des transistors. On a la logique CMOS, par rapport à de la logique normale, on gagne au moins un facteur 2 sur les transistors, hein, et sur la complexité, évidemment. Alors, logique dynamique. Alors, la logique dynamique exploite le fait que les portes, l'entrée des portes, est capacitive. Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que l'entrée des portes? C'est des grilles. Hein, et des grilles d'autres transistors. Et donc, puisque c'est une kappa, si j'isole la kappa, elle devrait rester chargée. On fait même maintenant, on remplace des batteries par ce qu'on appelle des supercondensateurs qui sont utilisés comme ça. On charge la batterie, on charge le supercondensateur, on le débranche, et puis votre petit moteur, il va continuer à tourner en vidant la kappa. Hein. Ça s'appelle les supercondensateurs. Eh bien, on fait ça. Vous allez me dire, une kappa d'un transistor de 22 nanos, c'est quand même un peu petit. Hein. Et c'est quelques femtofarads, et encore, peut-être même moins que les femtofarads. Et donc, mais puisqu'on a besoin du potentiel, la charge reste théoriquement là. Mais comme toute capacité a des fuites, ça finit toujours par partir. Mais ça peut rester longtemps. On compte que ça peut rester quelques microsecondes. On va me dire quelques microsecondes, c'est rien du tout. Oui, mais pour une machine qui tourne à la picoseconde, ça fait quand même pas mal. Voilà. Donc, on peut utiliser ça. Ça a un inconvénient, c'est que quand on veut tester le circuit après fabrication, en général, on le teste à faible vitesse. Et si je travaille à faible vitesse, les kappas, elles vont se décharger. Donc, ce problème d'être obligé de tester à grande vitesse, les affaires retirées de l'utilisation moderne. Mais ça marche quand même. On a fait des circuits intégrés qui utilisent du dynamique et qui fonctionnent très bien avec les technologies modernes. Voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Hein. Donc, on maintient la kappa. Donc, elle maintient une information dedans. Donc, on peut répartir le calcul d'une fonction sur plusieurs instants. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on appelle précharger les kappas par un MOS, qui se fiche éperdument du résultat de la fonction. Il précharge la sortie à 1, systématiquement. Et l'instant d'après, on ne fera que de décharger si on veut un 0, par exemple. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut précharger à 0 et vider à 1. Mais là, ça mettrait en jeu des MOSP qui sont plus gros, donc on préfère le faire dans l'autre sens. Et ce système-là, alors quand on décharge, la décharge, elle, tient compte du résultat, puisqu'on ne décharge que ça. Mais on ne décharge que par un réseau N, donc le réseau N, c'est fait avec des petits transistors, et donc ça marche mieux. Hein. Donc on peut faire ça, donc répartir le... Alors, il y a encore d'autres solutions. Voilà, vous voyez l'idée. je précharge par un transistor P qui va charger la capacité qui correspond à la sortie. Et puis, pour le réseau N, soit je mets à 1 les transistors qui doivent l'être au bon moment, soit je laisse les transistors s'établir comme ils veulent, mais ici j'ai un robinet, quoi. J'ouvre le robinet et ça décharge si le réseau est conducteur, donc si les entrées l'ont rendu conducteur. Donc vous avez un truc comme ça. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. Ça se fait, par exemple, dans des additionneurs. Vous préchargez la retenue. Et puis, s'il y a une retenue, eh ben, vous allez décharger les éléments de retenue qui vont devoir être à zéro. Donc, le dynamique, qui était très utilisé dans le NMOS à l'époque, est moins utilisé maintenant dans le CMOS à cause de cette histoire de tests. Alors, maintenant, on va parler un peu de la technologie CMOS. Pourquoi on va parler de la technologie? C'est, je ne peux pas expliquer le reste si vous n'avez pas une petite idée de comment ça se fait. D'abord, premièrement, si vous voulez, les circuits intégrés, qu'ils soient CMOS ou bipolaires, mais maintenant, il n'y a plus de circuits intégrés bipolaires, de toute façon. Donc, ils sont tous CMOS. Les circuits intégrés CMOS se font de manière collective. C'est-à-dire, vous voyez, ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Et on fait tous les traitements collectivement sur toute la tranche. Les tranches, maintenant, peuvent aller jusqu'à 500 mm, un demi-mètre. Hein. Imaginez, machin. Hein. Rempli de circuits qui font l'ordre du centimètre. Vous voyez combien il y en a sur une tranche. Donc, ça coûte cher de traiter une tranche, mais on en a beaucoup à la fois. Donc, ce cher divisé par beaucoup diminue le prix. Et donc, d'ailleurs, on parle de rendement, c'est le pourcentage de circuits bons sur le nombre de circuits qui pourraient être bons. Parce que vous voyez, un circuit qui n'est pas complet, ce n'est pas la peine de le compter. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Alors, ces circuits sont fabriqués par une succession d'opérations qui tient de la photolithographie. On va voir ça plus en détail. Par des machines qu'on installe quelques-uns à la fois au travers d'un objectif qui vaut une fortune et qui remet qui dessine le circuit à un emplacement sur la tranche. Puis on déplace la tranche, on recommence et ainsi de suite. Et donc, là, vous avez ce qu'on appelle un réticule qui est généralement à taille 10. Il est 10 fois plus gros que la puce. Donc là, il y a des motifs au nanomètre, à 22 nanomètres, et là, il y a des motifs 10 fois plus grand, donc ils font 220 nanomètres. Et alors, c'est assez compliqué parce que vous voyez, c'est un soleil avec des UV. Et les UV, les longueurs d'onde, sont de l'ordre du demi-micron, enfin, pas du demi-micron, mais de 0,1 micron, donc 100 nanomètres, 200 nanomètres, c'est le domaine des UV, hein, jusqu'à peut-être 300 nanomètres. Hein, puisque le rouge, le bleu, ça doit être 400 nanomètres ou quelque chose comme ça. Hein. Donc on est au-dessus du bleu. Et là, le gros problème, c'est que la longueur d'onde de la lumière est plus grande que les motifs à dessiner. Et ça, dans tous les cours de physique, on vous dira, on ne peut rien faire en dessous de la longueur d'onde. Eh bien si. Et ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, si on ne faisait rien, l'image serait déformée. Il y aurait une image, mais elle serait déformée. Et on fait la déformation inverse. Puisque tout ça, toute cette image est obtenue par calcul. Hein? Il y a des programmes énormes. Si vous voulez, la microélectronique, c'est peut-être un des lieux pratiques où il y a l'informatique la plus avancée. Hein? L'utilisation de l'IA, ça se fait depuis le début des années 80, et ainsi de suite. Donc, de graphique, des choses comme ça. C'est vraiment très complexe. Et donc, le dessin est déformé pour contrecarrer la déformation optique. C'est quand même assez extraordinaire. Ils arrivent à dessiner avec des longueurs d'onde de l'ordre de 275 nanomètres. Ils arrivent à faire des dessins de l'ordre de 22 nanomètres. C'est quand même assez surprenant. Alors, on va voir comment on réalise. tout à fait classique. Comment on réalise un inverseur? Il a une certaine topologie, on en verra une autre topologie tout à l'heure, mais bon, celle-là, elle a été choisie pour qu'on puisse la montrer en coupe. Donc voilà, on va... Vous avez vu que le substrat des MOS P et des MOS N n'est pas le même. Les MOS N sont dans un substrat P et les MOS P dans un substrat N. Or, la tranche, on se récupère une tranche. Si vous voulez, le silicium est fabriqué par ce qu'on appelle tirage, c'est-à-dire une espèce de saucisson, hein, qui fait 50 cm de diamètre et qui est d'un seul type de silicium. Généralement, le type 1 des types les plus courants, c'était le P. Alors, donc, on coupe, comme tout saucisson, on le coupe en rondelles, des rondelles très minces, de l'ordre d'une fraction de millimètre, et c'est ces rondelles qui donnent les tranches, je vous ai montré la photo. Et on va maintenant travailler sur cette rondelle. Donc, on suppose qu'on a un substrat type P, hein, donc une tranche, et on va voir ce qui se passe au niveau de notre petit bout, hein, qui est sur une grande tranche, évidemment, avec plein d'autres choses autour. Et donc, on va l'oxyder. La première chose qu'on fait, c'est qu'on l'oxyde. Hein. Je rappelle, l'oxyde de silicium, c'est de la silice, c'est du verre. C'est ce qu'il y a de mieux qu'on ait trouvé pour faire beaucoup de choses. Donc, une couche d'oxyde. On va le refaire recouvrir par une couche de résine photosensible. Hein. Et on va mettre au-dessus un masque qui va représenter un rectangle, hein, comme ça. Ensuite, on insole. Et on développe la résine, donc ça fait un trou dans la résine. À cet endroit-là, il fuit. Bon, voilà. Donc ça fait un trou dans la résine, et on a là le